Dans le cadre d'un partenariat en collaboration avec le tandem Arras Douai et Radio PFM, les complices ont réalisé une émission qui nous emmène à la découverte des coulisses du théâtre d'Arras et de l'hippodrome de Douai. Au cours de cette émission,
vous pourrez y entendre des micro-trottoirs sur les Labs des Utopies, ainsi que des interviews de la visite du théâtre d'Arras et des petits entretiens sur les membres de l'équipe du tandem.
C'était vraiment une place très importante déjà dans la ville d'Arras, puisqu'il y avait un marché aux poissons, d'accord. Et donc, on est vraiment au cœur de la vie de la ville à ce moment-là. Ici, on est dans ce qu'on appelle une salle à l'italienne, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté une scène qui est celle sur laquelle Jérémy et moi-même nous trouvons. Et en face, un parterre, c'est-à-dire les sièges au sol sur lesquels vous êtes. Et encore au-dessus, des balcons. Les balcons et la forme de la salle sont appelés en fer à cheval, hein, c'est-à-dire que ça arrondit. Donc ça, ce sont les premières choses que l'on peut dire là-dessus. Est-ce que Jérémy, tu as des choses à ajouter?
Par rapport à l'espace, alors effectivement, Julia parlait de la forme en fer à cheval pour le public. De ce côté-là, on est plutôt sur une forme plus classique, puisque, comme vous voyez, c'est un gros carré, en fait, qui va monter aussi en volume, donc en cube. Donc vous avez vraiment un fer à cheval en volume qui est collé à un cube avec cette ouverture de la scène, qui est une ouverture assez petite. Il y a 7 mètres entre les deux côtés de cette scène.
On a effectivement un plafond peint. Alors c'est hyper à la mode à l'époque. De cette salle, effectivement, on peint énormément les plafonds. Alors là, on est surtout dans des représentations allégoriques et également avec une grande inspiration de l'Antiquité. Par exemple, le personnage avec le casque et la lance, il pourrait nous évoquer quel personnage connu de l'histoire grecque ?
Athéna.
Alors quand je dis personnage, personnage un petit peu mythique, hein, évidemment, mais c'est effectivement l'idée. Donc vous voyez, on est vraiment là dans des représentations de personnages qui ne représentent personne de précis dans l'histoire, si vous voulez. On a soit effectivement des allégories, soit des divinités grecques. Est-ce que ça répond à peu près à ta question ? Ouais. Donc voilà, mais c'est vraiment extrêmement à la mode. Enfin, ce n'est pas une spécificité du théâtre d'Arras, c'est vraiment très à la mode au moment où on construit ce théâtre.
Alors, on a remarqué le plafond, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous semble étrange dans ce plafond ? Est-ce qu'il est complet ? Qu'est-ce que vous voyez au milieu ?
Un trou.
Un trou. Alors, à votre avis, à quoi ça sert ?
Ouais ? Mais c'est toute la vie, pour le lustre.
Le lustre, exactement. Par cet espace que vous voyez là, qui est recouvert maintenant par une espèce de grille dorée, vous aviez un lustre qui descendait et qui remontait au moment où on éclairait à la bougie, tout simplement. Parce qu'il fallait allumer les bougies, les éteindre, etc. Mais cet espace, il a aussi une autre fonction. Il y a un espace au-dessus de ce trou que vous voyez qui est ce qu'on appelle une caisse de résonance. Et ça va fonctionner exactement comme sur une guitare ou une contrebasse ou un violoncelle, un violon. Vous savez, sur tous ces instruments, vous avez des espèces de petits orifices qu'on appelle les ouïes, je crois, sur un violon. Et ça permet de faire résonner le son. Et bien, c'est exactement à ça que sert cet espace vide qui se trouve en haut et qu'on ne voit pas.
Moi, je voudrais vous poser des questions sur les places réservées aux spectateurs. Est-ce qu'elles sont toutes hyper pratiques ? Alors, dites-moi, expliquez-moi. Alors, ceux du tout en haut, ils ne voient pas grand-chose, on est d'accord. Et quoi d'autre encore qui n'est pas super pratique ? Ouais.
Sur les côtés.
Sur les côtés. Alors, sur les côtés, ça s'appelle des baignoires. Et effectivement, on ne voit pas grand-chose du spectacle. Mais par contre, quel est l'avantage d'être dans une baignoire ? On est vachement bien vu. Et effectivement, vous le savez sans doute, jusqu'à une date assez récente, on allait au théâtre autant pour être vu que pour voir. Alors d'abord, il y a par exemple toute une littérature qui nous montre que c'est un lieu de drague, hein, hyper important. Et puis c'est un lieu de drague à la fois amoureuse, mais aussi dans le sens où ça permet d'essayer de séduire quelqu'un qui est bien en vue, qui est important, d'accord ? Et donc, effectivement, être bien vu, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'équivalent, maintenant, ça serait un peu, vous savez, vous envoyez peut-être des retransmissions à la télé, c'est ces défilés de mode où, en fait, les places les plus importantes sont celles qui sont les plus proches du podium, alors même que c'est celles où on ne voit absolument pas les vêtements ni les mannequins parce qu'on est trop près, justement. Et donc, c'est un peu la même idée.
On a juste ici, en plein milieu, un blason, qui est le blason de la ville d'Arras. Et donc ça, c'est un élément qui montre où on se trouve et qui montre que la salle et l'établissement dans lequel on se trouve a été construit par la ville. Et justement, les baignoires dont vous parlez, Julia, et ben, c'est un espace où vont se placer des notables de la ville et notamment ce qu'on appelle les édiles. Les édiles, ce sont les personnes qui dirigent dans un conseil municipal, dans l'ancêtre d'un conseil municipal, par exemple.
Est-ce que vous voulez nous rejoindre sur scène ?
Cette aventure, au niveau des escaliers.
Oui, ces escaliers sont très dangereux.
Qu'est-ce que vous entendez en marchant ? Ça sonne un petit peu creux, non ? Ça sonne un peu creux parce qu'on est sur des planches. Alors là, vous ne le voyez pas trop parce que c'est recouvert d'une espèce de matière un peu plastique, un petit peu noire. Mais dessous, en fait, on a juste des carrés de bois, des carrés de plancher qui sont installés. Et si vous remarquez, si vous vous avancez un peu au niveau de l'avant-scène, vous pouvez voir qu'ici, on a un espace un petit peu différent. Et cet espace-là, c'est un espace qu'on peut retirer pour mettre ce qu'on appelle un orchestre dans la fosse d'orchestre. Donc ça, c'est pour des formes de type opéra, par exemple. Un opéra, on va en avoir un bientôt au Théâtre d'Arras qui s'appelle Le Papillon Noir. Alors, ce n'est pas une forme d'opéra très classique, c'est plutôt un opéra contemporain. Mais ça, c'est un élément de décor qui va pouvoir, enfin un élément de la scène qui va pouvoir se déplacer à ce moment-là. Oui ?
Alors, ça n'a pas de rapport. Il y a à peu près combien de projecteurs, tout ça ?
C'est une très bonne question à laquelle je ne saurais pas répondre. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'on a plusieurs centaines, voire presque un millier de couleurs différentes sur les projecteurs. Sur des projecteurs, on met ce qu'on appelle des gélatines. Vous savez, c'est un peu comme des feuilles de papier calque de couleur. En fait, les projecteurs, ils sont toujours blancs et on rajoute ces petits filtres pour faire en sorte que, la couleur change. Et donc ça, on a ce qu'on appelle, les techniciens reçoivent ce qu'on appelle un plan de feu. C'est une espèce de carte des projecteurs qui doivent s'installer. Et dessus, il y a les petites références, les numéros qui correspondent aux couleurs qu'on doit mettre dessus. De ce côté, on a également un atelier qui va nous permettre de réparer certains décors. Ici, on n'en fabrique pas, mais on a tout un tas de petits éléments de décor qui peuvent s'endommager quand vous faites une pièce où il y a un élément de décor qui se casse, et donc ici, on peut les réparer.
Ou simplement les rassembler, en fait, parce que souvent, ils peuvent arriver, j'allais dire, en pièces détachées, enfin, c'est pas Ikea non plus, mais vous avez une... Enfin, voyez là, on essaye, en général, lors d'un transport, de les emboîter de façon à ce que ça prenne le moins de place possible. Donc évidemment, après, il faut rassembler tout ça. Et donc c'est là qu'effectivement l'atelier a son importance.
Maintenant, on peut vous emmener dans la partie loge, peut-être ? Donc ici, vous êtes dans une loge. Donc les loges, c'est des endroits où les artistes vont passer quelques heures, quelques jours, peut-être, parfois. Pas en continu, hein. Il y a des endroits où ils dorment et où ils mangent. Les artistes sont des gens normaux, ou à peu près. Mais vous avez donc ces espaces où en fait les gens vont venir se maquiller, par exemple, ou manger un moment, ou prendre une douche avant ou après le spectacle parce qu'ils ont beaucoup sué sur scène, ou ils ont beaucoup sué avant parce qu'ils avaient très peur de monter sur scène. Donc c'est un espace où vous pouvez aussi vous détendre. Il y a des petits fauteuils pour s'allonger, pour faire la sieste, pour se reposer. Et puis j'attire votre attention sur l'élément qui est derrière, au niveau des miroirs. Qu'est-ce que vous voyez d'un peu particulier par rapport à un endroit, on va dire, classique où vous avez des miroirs ?
Il y a des lampes...
Des lumières,
Il y a des ampoules.
Ouais, les ampoules. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces ampoules? Qu'est-ce qu'elles te... qu'est-ce
bah, que ça donne? Il y en a qui sont allumées, il y en a qui ne sont pas allumées du tout.
Ouais, alors ça, c'est un peu... Ça, c'est peut-être parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, et que du coup, il y en a qui sont effectivement qui sont grillées. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui t'interpelle un petit peu?
Ils sont sur les côtés, en général, c'est pas au-dessus, il y a un trou.
Ouais, alors ça pourrait être au-dessus et en dessous, mais on se rapproche, oui.
Il y a deux types d'ampoules différentes.
Ah, vous êtes vraiment très précis, mais c'est pas ce que je veux que vous disiez.
Elles éblouissent pas.
Elles éblouissent. Très bonne remarque. Pourquoi elles éblouissent?
Pas trop. Je trouve qu'elles éblouissent pas trop.
Pour s'adapter à la luminosité qu'il va y avoir sur scène.
Exactement.
Avec les projecteurs.
Exactement. Ces éclairages très forts, ils servent effectivement à s'habituer, à habituer son regard à la lumière pour pas arriver sur scène et puis d'un coup être ébloui par tous les projecteurs. On a vu la servante sur la scène tout à l'heure, vous avez vu, la lumière était déjà un petit peu désagréable. Maintenant, imaginez la puissance de 1000 servantes sur scène partout comme ça, en rouge, en violet, en vert, en plein de couleurs différentes. Et ben ça va, ces lumières qui sont là vont permettre effectivement d'atténuer le contraste, on va dire. Et puis ça a une deuxième utilité, c'est que cette luminosité, elle ressemble aussi donc à ce qui est sur scène au niveau du maquillage. Ça va nous permettre de nous maquiller correctement avant de monter sur scène. Les éclairages sur scène, ils sont souvent tellement forts que si vous n'avez aucun maquillage, et bah, votre visage il va apparaître tout plat pour les spectateurs. Et donc, se maquiller un petit peu, même pour les garçons, mettre un peu de rouge aux joues, un peu de trait sous les yeux, un peu de kohl par exemple, un peu de mascara, des choses comme ça, et bah, ça va permettre de faire ressortir les expressions du visage et de faire ressortir le visage sur scène. Alors c'est aussi un espace où parfois les artistes peuvent manger, il doit y avoir un frigo quelque part derrière l'un de vous, et ben voilà, juste ici. Et c'est un endroit aussi où on va leur déposer ce qu'on appelle un catering. Le catering, c'est de la nourriture, des boissons, des choses que les artistes vont nous demander et qui vont venir manger ou boire. Parfois il y a des choses un peu curieuses dans le catering parce que c'est des personnes qui sont en tournée et donc elles vont demander, je sais pas, du caviar tous les jours. Et donc, en fait, il y a des gens qui vont acheter du caviar et finalement, ça ne va pas servir parce que les artistes, ils vont manger du caviar tous les jours et donc ça ne va pas leur plaire. Mais nous, comme on a la feuille qui correspond à toute la tournée, eh ben, on va devoir en acheter quand même. Alors, je vous rassure, ça ne nous arrive quand même pas très souvent ici, mais parfois, on a des demandes un peu spéciales. Par exemple, une eau minérale de telle marque ou ce genre de choses. Et alors, parfois, c'est vraiment très compliqué à trouver. Je ne sais plus quand, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un demandait une bière... vraiment très très spécifique d'un certain endroit et puis c'était vraiment très difficile à trouver, donc ce sont des choses qui arrivent. Voilà, les artistes sont aussi parfois un peu capricieux. On va ressortir et puis on va aller en salle des concerts.
C'est effectivement une salle des concerts donc, qui date du début du 19e siècle et qui a vraiment été faite pour accueillir les concerts dans les meilleures conditions possibles. Et notamment, on vous parlait tout à l'heure de la caisse de résonance de la salle à l'italienne. Là, le travail de la voûte et ensuite de la caisse de résonance a vraiment pour but de permettre au son en fait, à la fois d'être amplifié, mais aussi de tourner, ce qui lui permet d'être le meilleur possible où que vous soyez dans la salle, globalement. Et du coup, c'est en fait une technique relativement moderne pour l'époque. Hein. C'était vraiment, enfin voilà, la salle des concerts d'Arras, elle est vraiment réputée là-dessus. Il y a d'autres indices. Qui supposent juste de lire un petit peu, qui permettent de savoir qu'il va être question de musique. On a des noms de compositeurs, Mozart, Monsigny, Palestrina, et puis aussi... Vous avez là des médaillons au-dessus des bandes dorées, vous les voyez ? Avec également des noms de compositeurs importants. Et puis il y a deux personnages que vous ne connaissez peut-être pas, sinon pour des collèges. Jean Baudel. Et qui d'autre ? Alors c'est qui ? Alors, recréer, c'est un peu excessif de dire ça, mais en fait, Jean Baudel est le premier auteur de théâtre en langue française. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de théâtre avant, mais il était en latin, en fait. Donc il est effectivement très important de ce fait-là pour le théâtre en français. Il est arrageois, donc il a du coup sa place ici. Et Adam de la Halle également, c'est un auteur légèrement plus jeune, arrageois également. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont quand même tomber dans l'oubli. Hein. Et donc, quelque part, les maîtres de la part des commanditaires donc de la salle, c'est-à-dire de la ville d'Arras, sur le même plan que Mozart, c'est peut-être quand même voilà, montrer que, bah ouais, Arras, quand même, attention, on a des artistes aussi importants que Mozart, hein, c'est pas rien. Donc il y a un peu ce côté-là, un petit côté cocorico. Pour la petite histoire, Adam de la Halle, il a influencé un personnage que vous connaissez toutes et tous. Je vais vous donner un indice. Il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle « Le jeu de Robin et Marion ». Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose si vous écoutez les prénoms des personnages ? « Le jeu de Robin et Marion ». Un Robin célèbre. Robin des Bois. Comment elle s'appelle, la compagne de Robin des Bois ? Marianne, non ? Là, au XIIIe siècle, Adam de la Halle, il nous raconte l'histoire de deux paysans, Robin et Marion, qui ont des problèmes avec le seigneur du coin qui veut violer Marion. Et évidemment, Robin et Marion ne sont pas hyper contents là-dessus, et donc ils vont se battre contre le seigneur. Et donc, on voit qu'on a aussi, comme dans Robin des Bois, l'idée que les dominés essayent de lutter contre les dominants. Est-ce que ça va comme histoire ? Ouais. Alors Robin des Bois a d'autres influences, hein. Il y a aussi le personnage d'Ivanhoé qui a été créé par Walter Scott, mais on voit en tout cas que voilà, même si Adam de la Halle et Jean Baudel sont globalement à peu près tombés dans l'oubli, on a encore de nos jours quand même un certain nombre d'éléments qui les rappellent. Ce personnage qui est globalement plus ou moins tombé dans l'oubli réapparaît quand même de temps en temps dans la culture populaire. La plus récente, elle date de 2008. Elle est juste en dessous de la salle des concerts où on était à l'instant. On a décidé tout simplement de creuser sous la salle parce qu'on avait besoin d'une nouvelle salle. Donc voilà, donc on a creusé dessous. Au passage d'ailleurs, on a découvert un petit peu de vestiges, un petit peu de céramique qu'on peut exposer à certains endroits du théâtre. Ce qu'il faut savoir néanmoins, c'est que bon, on trouve souvent un petit peu de céramique quand on creuse, hein. C'est pour ça que quand on fait des travaux, en général, on fait des fouilles archéologiques préventives. Alors ici, c'est effectivement un espace très sombre, avec très peu de décoration par rapport à la salle des concerts dont on vient. Et pour une raison assez simple, en fait, c'est que de nos jours, on aime bien avoir une salle à peu près neutre. C'est-à-dire que si on a plein de décorations, comme dans la salle des concerts où on était, bah, c'est difficile en fait, pour un spectateur, de se plonger dans une pièce de théâtre qui n'aurait aucun rapport avec les décors. Et du coup, il faut les camoufler, etc. Ici, comme on est dans quelque chose de complètement neutre, grâce au fait que les plafonds et le sol sont noirs, on peut effectivement beaucoup plus jouer, en fait, avec des univers différents. Ça permet d'être beaucoup plus neutre dans ce que ça approche. Donc, globalement, de nos jours, quand on fait des salles de spectacle, on les fait vraiment comme ça. On les fait vraiment plutôt tout en noir. Après, il y a autre chose, c'est les sièges sur lesquels vous êtes. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Lou ?
Ils sont repliables et rangeables. On peut transformer cette salle en une salle totalement sans siège.
Ouais, effectivement, c'est ce qu'on appelle une salle transformable. C'est-à-dire qu'on peut replier totalement les gradins, ce qui n'était évidemment pas le cas des salles précédentes. Et ça, c'est super important. C'est important pourquoi ? D'abord parce que ça permet d'accueillir plus ou moins de personnes en fonction de savoir si on met des sièges ou pas. Là, on peut accueillir 85 personnes quand c'est déplié comme ici. Mais ça permet aussi d'accueillir des spectacles avec des dispositifs différents. C'est-à-dire que là, on est dans ce qu'on appelle un dispositif frontal, c'est-à-dire que vous êtes de front face à moi. Et en fait, il y a une séparation très nette entre vous et moi. On est d'accord ? On peut avoir un dispositif bifrontal, c'est-à-dire avec le public, le spectacle et le public. Et là, du coup, les spectateurs, en fait, se voient les uns les autres. On peut être dans un espace quadrifrontal, comme un ring de boxe. Il y a un peu une remontée de la mode d'avoir des spectacles quadrifrontaux comme ça, parce que ça permet notamment, enfin, c'est logique notamment, par exemple, quand on a des spectacles qui mettent en scène des disputes entre des gens, puisque le ring de boxe est quand même un endroit où on se bagarre. Donc il y a ça, il y a aussi la possibilité de faire des spectacles circulaires, comme dans un cirque. Et puis, la petite anecdote quand même, c'est que l'an dernier, on a accueilli ici un spectacle avec des enfants de maternelle, donc c'était entièrement replié. Et une bonne partie du spectacle, c'était qu'il y avait des monstres qui couraient après les enfants, des monstres poilus. Donc en fait, il n'y avait vraiment aucune séparation, comme c'est le cas maintenant, entre le public et le spectacle, puisque du coup, les enfants faisaient un peu partie du spectacle aussi, puisque c'était après eux qu'on courait. Et finalement, les monstres faisaient un petit peu partie du public aussi, d'accord ? Donc il n'y avait vraiment aucune séparation, et donc ils ont pu courir dans toute la pièce où vous êtes là. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous permet le fait d'avoir une pièce comme ça, dont les gradins sont repliables.
Qu'as-tu pensé des explications ?
Je les ai trouvées claires, très intéressantes. Ça m'intéresse de découvrir un petit peu l'histoire du théâtre d'Arras.
Et juste une dernière question, est-ce que vous connaissez l'histoire du théâtre ?
Non, je ne connaissais pas du tout l'histoire du théâtre. J'étais déjà venue une fois quand j'étais petite voir une pièce de théâtre avec mon école, mais je n'avais pas eu toutes ces infos-là.
Bah, c'est impressionnant, je ne savais même pas que ça existait. Voilà.
Et qu'est-ce qui est impressionnant pour toi ?
Déjà la taille, la hauteur, je pensais pas que ça allait être si haut. Je ne savais même pas qu'il y avait des trappes, je l'ignorais. Et c'est un endroit, je trouve, impressionnant. Le fait de savoir, de voir les dessous de la scène, etc. Voilà.
Qu'avez-vous pensé de les explications sur la salle des concerts ?
Il y avait des choses que je ne savais pas, par exemple que Baudel et Adam de la Halle étaient d'Arras. Et je ne savais pas que. Je pensais que les deux salles de spectacle avaient été construites en même temps.
Et toi ?
Moi aussi, je trouve qu'elle est super jolie en fait, tous les décors, les peintures, etc. Donc, puis j'avais jamais été ici parce qu'il n'y a pas vraiment de spectacle qu'on voit habituellement. Donc, c'est vrai que c'est assez étonnant.
Après cette visite des coulisses du théâtre d'Arras, les complices ont assisté à la représentation du Lab des Utopies programmée par le Tandem. Interview de quelques spectateurs et intervenants juste avant le spectacle, dont Jérémy qui explique son travail en tant qu'attaché aux relations avec les publics du Tandem.
Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ce métier ici ?
Alors moi ce que j'aime beaucoup dans le spectacle vivant, c'est que on a à la fois du théâtre, de la musique, de la danse, ce genre de choses. Et puis mon métier précis ici, c'est de faire des choses comme aujourd'hui, donc de rencontrer du public et de leur faire découvrir nos lieux, de leur faire découvrir ce qu'on propose en termes de propositions artistiques et tout ça. Et donc moi ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que le bon public rencontre le bon spectacle. Et donc là, par exemple, aujourd'hui, je suis ravi d'organiser une visite avec des jeunes qui découvrent parfois pour la première fois nos lieux et donc qui peuvent s'émerveiller un petit peu devant toutes ces salles très différentes.
Qu'est-ce que vous attendez du spectacle ?
Du coup, moi, je travaille au Tandem et là, c'est le spectacle de l'Envol. Donc, ce que j'attends, c'est de voir un petit peu à quoi ressemblent les anciens spectacles de l'Envol, puisque moi, je suis arrivé ici il n'y a pas longtemps et on m'a parlé de ce dispositif un petit peu particulier.
Et est-ce que vous avez déjà vu un de leurs spectacles ou de leurs événements, par exemple ?
Alors, pas du tout, mais du coup, j'ai regardé un petit peu ce qui avait été fait auparavant. Et donc pour ce spectacle, ça va être comme un anniversaire des 5 ans du dispositif. Et je sais que pour ce spectacle-là, il va y avoir des extraits des anciens spectacles avec des retours des anciens élèves. Donc j'aimerais bien voir un petit peu comment ils ont évolué, un petit peu ce que ça va donner sur scène par rapport à ce qu'ils ont pu produire avant.
D'accord. Et du coup, vous n'avez pas du tout vu les répétitions, par exemple ?
Alors si, justement, comme je travaille ici, ils sont arrivés depuis lundi. Donc ils n'étaient pas tous là à la base, mais on les voit beaucoup traîner dans les couloirs. Comme nous, on fait beaucoup d'allers-retours aussi dans le théâtre, on passe une petite tête dans la salle à l'italienne, là où ils répétaient. Donc j'ai eu l'occasion de voir qu'il y avait pas mal de moments différents. Des moments où il y a une batterie sur scène, d'autres où il y a un petit peu de chant, un petit peu de texte, un petit peu de danse, de la musique. Enfin, ça mélange un petit peu... on va dire tous les genres, et j'ai eu l'occasion de voir ça étant donné que je traînais un petit peu dans les couloirs.
Et petite dernière question, est-ce que vous avez un moment favori ?
Alors, je trouvais, si vous voulez, quand on était dans les bureaux, on les entendait pas mal chanter, et je trouvais ça assez sympathique parce qu'on sentait qu'il y avait pas mal de sentiments vis-à-vis de ce qu'ils ont vécu auparavant par rapport à leur parcours et puis aussi par rapport à ce qu'ils ont pu faire en spectacle. Donc je pense que les moments chantés, ça va être des jolis moments de partage avec le public.
Qu'est-ce que vous attendez de ce spectacle qui est assez inédit dans cette forme ?
Du nouveau, apprendre des choses sur les personnes, hein, de l'Envol, de toutes les classes, et voir l'évolution du début jusque là maintenant.
Donc vous avez déjà vu une de leurs représentations, de leur travail ?
Oui.
Et du coup, c'était laquelle ?
Donc la classe 1 et la classe 2.
Et c'était quoi votre moment préféré dans ces deux classes, du coup ?
Mon moment préféré, je pense que c'était les choses directes, réelles, et les impros, bien sûr. Mais on voit que ça venait vraiment du cœur et que c'était des choses bien construites.
Est-ce que vous connaissez un peu le principe de ce spectacle ou pas du tout ?
Alors, le principe de ce spectacle, je crois que je ne le connais pas. En revanche, je connais le principe de classe départ, qui est un dispositif donc, de réaccrocher de potentiels décrocheurs du système scolaire. Mais après, sur le spectacle, non, je n'ai pas d'idée préconçue là, de ce qui nous attend.
D'accord. Et du coup, vous n'avez pas d'idée ou de moment qui pourrait potentiellement vous plaire par rapport au spectacle qui va suivre ?
Alors moi je pense qu'il va y avoir un peu de chant, enfin il y aura sûrement un instant musical, un peu de théâtre sûrement aussi, mais c'est tout ce que je peux vous dire.
Est-ce que vous connaissez un peu les acteurs qui vont jouer juste après ou pas du tout ?
Un petit peu parce que je les ai déjà vus en représentation.
D'accord, et vous avez vu quel spectacle du coup ?
J'ai vu plusieurs classes départ, j'arriverai pas à vous les citer parce que j'en ai vu 3 ou 4 déjà.
Et qu'est-ce que vous attendez de celui-ci du coup ? Parce que comme vous en avez déjà vu plusieurs, qu'est-ce qui vous donne envie d'y retourner ?
Pour moi ce soir c'est une fête, c'est des retrouvailles avec des gens que j'aime dans la salle et sur la scène.
Qu'est-ce que vous attendez de ce spectacle au niveau de la représentation du coup ?
Ce qui fait l'essence des représentations des classes départ, c'est beaucoup d'humanité, de sens, de remettre l'homme au centre de la vie. Et j'ai du mal à vous dire tellement ça me transporte chaque fois que j'ai vu une représentation. Donc je n'ai pas une attente dans le sens où je serai forcément surprise. Heureusement surprise, je ne sais pas comment.
Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous avez vu les répétitions, par exemple ?
Non, j'ai pas vu les répétitions encore, mais j'ai hâte de découvrir le travail. Et du coup, je vais avoir un regard complètement neuf par rapport à cette forme, qui va être une forme assez étonnante, cabaret, avec beaucoup de monde sur le plateau. Donc du coup, ça, je trouve c'est bien de découvrir la forme aboutie après cette semaine de travail intense. D'après ce que moi j'ai un peu senti dans les couloirs et sur les plateaux, ça a beaucoup travaillé cette semaine.
C'est quelque chose d'inédit pour vous du coup ?
Ça fait partie des missions d'une scène nationale, c'est-à-dire d'avoir à la fois la programmation, de spectacles, de théâtre, de musique, de danse, d'art du cirque aussi, et en même temps d'avoir des temps qui soient des temps d'expérimentation, des temps de recherche, des temps de résidence, pour aussi faire des tentatives de rencontres un peu inédites. Donc du coup, ça fait complètement partie de nos missions.
Ils ont travaillé pendant combien de temps pour faire ce spectacle ?
Ce soir, c'est un peu la réunion des trois cycles, des trois étapes de travail précédentes. Donc du coup, c'est ça qui fait aussi l'intérêt de ce projet, c'est-à-dire que ça a été en plusieurs étapes que moi j'ai pas suivi. Donc du coup, mais ça a été le travail de l'association L'Envol. Donc du coup, c'est vraiment intéressant, quoi, ce travail sur la durée, avec un premier groupe, un deuxième groupe, un troisième, et puis de réunir ce soir dans des conditions de plateau qui soient le plus favorable possible. Et avec un public qui apparemment est là, et donc du coup, je trouve que c'est une belle tentative.
Ben, j'espère aussi. Et est-ce que vous allez avoir la chance de voir ce spectacle ce soir ?
Oui, absolument.
Et qu'est-ce que vous y attendez, du coup ?
Ben, plein de surprises, et puis les émotions, parce que je pense que tout le monde doit avoir le trac, là, en ce moment, dans les coulisses, et du coup, je pense qu'au plateau, il y aura vraiment des belles émotions, et puis voilà, puis la diversité des prises de parole, l'engagement aussi sur le plateau. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir.
Après cette incursion au Théâtre d'Arras, les complices se sont rendus à l'hippodrome de Douai pour une visite des coulisses, mais aussi pour interviewer Reynild qui était présent sur les lieux.
Je suis Reynild de Gérardin, responsable du service de relations avec les publics du Tandem, scène nationale Arras-Douai.
En quoi consiste votre métier ?
Donc, je suis responsable du service des relations avec les publics dans lequel il y a 5 personnes. On va dire que les relations publiques dans un lieu comme le Tandem, donc qui est une structure culturelle, ont pour fonction de faire le lien entre ce qui se passe à l'intérieur du Tandem et les publics à l'extérieur. Ce qui se passe à l'intérieur du Tandem, c'est l'accueil de spectacles et parfois des résidences, de création de spectacles. Et le rôle du service donc, que je chapeaute, c'est vraiment de donner la possibilité aux publics les plus diversifiés de venir voir ces spectacles en étant bien sensibilisés. Et voilà. En gros, c'est ça les relations publiques. Et après, du coup, moi, je chapeaute le service de relations publiques, dans lesquels il y a notamment Julia et Jérémy, qui mènent notamment le projet Complice auquel vous participez.
Bah, quelle est la salle que vous avez préférée, on va dire ?
Alors, malheureusement, j'étais pas là pour la visite du théâtre d'Arras, mais j'ai pu quand même voir à quoi ressemblait la salle principale. L'hippodrome de Douai, je connais bien. Du coup, je dirais que j'ai une petite préférence pour l'hippodrome. surtout que j'ai beaucoup plus l'habitude, que ce soit au niveau du cinéma ou de la salle Malraux. Donc ouais, j'ai ma petite préférence pour l'hippodrome de Douai quand même.
Donc vous êtes ici dans l'hippodrome de Douai. Pour les personnes qui ont fait la visite du théâtre d'Arras, c'est un bâtiment qui est beaucoup plus récent, enfin à peu près de un siècle et demi plus récent. Il est apparu, il a été inauguré en 1904. Et en fait, ce bâtiment-là, il apparaît au moment où on détruit les murailles de la ville vers la fin du 19e siècle. C'est à ce moment-là qu'on constitue en fait des boulevards. Par exemple, il y a le boulevard Paul Allier qui est ici juste derrière. Et ben ça, c'est l'emplacement des anciennes murailles médiévales. Ça fait une espèce de tour de la ville. Donc c'est facile en fait de faire des routes à ce moment-là. Mais c'est aussi un moment où la place du Barlet, elle se multiplie en deux. En fait, elle était deux fois plus petite et donc elle se double et ça laisse un grand espace vide pour voilà, créer cette structure-là. La structure, elle est très particulière, elle est dodécagonale. Dodécagonale, c'est un mot un peu savant pour dire 12 côtés. Et elle, c'est une structure à 12 côtés parce que c'est un ancien panorama. Les panoramas, c'était des endroits où en fait on venait observer une ville quand on n'avait pas trop la possibilité d'y voyager. Donc là, c'était un ancien panorama de Rome, donc il faut vous imaginer des espèces d'énormes affiches collées tout le long de la surface du bâtiment, à l'intérieur bien sûr, pour voir la ville en fait comme si vous y étiez, comme si vous étiez à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est... Enfin, le bâtiment, il apparaît à un moment où la mairie, elle a aussi envie de se doter d'une grande salle de spectacle. Et au début, c'est une salle qui est prévue pour 3500 personnes. Alors aujourd'hui, on en intègre beaucoup moins pour différentes raisons. On va le voir un petit peu au niveau de la visite de certaines salles. Voilà, on va passer du coup à la première salle, la salle Malraux. Et peut-être plutôt par le haut, c'est plus sympa de la découvrir. D'un autre point de vue.
La scène, je la trouve très grande.
Ouais.
Et c'est vraiment la forme de la salle qui me...
Alors effectivement, au niveau de la forme, on retrouve ce dont on parlait, donc la structure avec 12 côtés, ce qui donne un peu cet aspect très particulier, un peu anguleux en fait, et en même temps ça donne un espace assez énorme, assez impressionnant. Au niveau de la scène, donc c'est ce qu'on appelle l'ouverture au plateau. Enfin, l'ouverture au plateau, c'est en fait la plus grande largeur entre les deux pendrillons que vous voyez des deux côtés, et c'est effectivement notre salle avec la plus grande ouverture au plateau. Quand vous comparez ça avec la salle avec la salle à l'italienne par exemple, on voit que c'est vraiment beaucoup plus grand, et c'est ce qui explique que les plus grandes formes de théâtre qu'on a au Tandem, on les présente ici, parce que c'est ici qu'on peut mettre les décors les plus grands, les plus impressionnants. Cette salle, elle a donc dans son état actuel à peu près 350-400 places, je crois. Il y en a plus si on libère les sièges que vous voyez des deux côtés. Vous voyez, il y a des espèces de il y a des pendrillons noirs qui en fait cachent un certain nombre de sièges. En général, on ne les libère pas parce que c'est des dispositions plutôt frontales. Et en fait, on a plutôt même tendance à refermer une partie des gradins que vous voyez sur le côté parce que on ne voit pas très bien, quand on est par exemple abattu au fond, on ne voit pas très bien ce qui se passe sur scène. Mais sinon, quand tout est dégagé, ça fait 700 places. Et une autre option, c'est de retirer les sièges qui sont ici, de mettre des planches, et ça fait une espèce de fosse d'orchestre. Enfin, c'est un endroit qu'on avait de la fosse d'orchestre, mais ça fait une espèce de fosse comme on voit dans les Zéniths ou ce genre de choses. Et ça, on le fait pour de la musique actuelle, par exemple. On a eu un concert de Feu Chatterton il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que même en étant en haut dans les gradins et tout, il y a une vraie proximité en fait avec les personnes sur scène, parce que c'est quand même pas... super, super loin. Ce que vous voyez au plafond, là, les espèces de gros machins bleus, c'est des pare-sons. C'est pour faire en sorte, en fait, de rabattre le son et pour qu'il se diffuse un petit peu mieux. Bon, pour le reste, alors, il y a la régie que vous voyez là au fond. Les éléments techniques, on va peut-être les voir un petit peu après. J'ai l'impression quand même qu'on peut traverser la scène, donc on va faire ça. Mais voilà, ça, c'est des choses... je vais peut-être pas beaucoup revenir dessus parce qu'on en a déjà parlé au Théâtre d'Arras, mais n'hésitez pas... Enfin, si vous avez des questions, notamment pour les personnes qui n'étaient peut-être pas à la race.
Juste parce que, en fait, moi, je suis allée visiter le bateau-feu à Dunkerque,
ouais.
Parce que, justement, dans le cadre de mon master, et ils avaient un peu les mêmes planches, et eux, ils avaient mis carrément des planches en dessous pour faire un peu comme dans l'opéra ou des choses comme ça.
Alors ici, je ne sais pas si on peut faire ce dispositif de sortir ou de descendre de scène, enfin, de dessous, d'aller sous la scène, mais c'est un truc qu'on peut faire au Théâtre d'Arras. Il y a un espace où on voit ça au théâtre. On continue ? Ouais. Il a été utilisé plein d'autres choses. Enfin, il a servi pour, notamment pour des fêtes de Gaillon. Ça, c'est les fêtes de Douai, en fait. C'est les fêtes, voilà, les fêtes de la ville de Douai qui ont lieu début juillet. Et puis, dans les années 50, 60, il est utilisé voilà, pour des comités de fêtes, enfin, ce genre de choses, pour plein d'utilisations diverses. Il y a un moment aussi où il revient un petit peu au niveau du cirque, avec le cirque éducatif. J'ai oublié le nom de la personne, donc je vais regarder. Mon nom s'affiche sans problème. C'est le cirque éducatif de Hugues Autier, donc ça c'est en 1976. Et ça c'est important de le savoir parce que il y a quelques années où le cirque éducatif s'était lié à ce bâtiment et à un autre bâtiment qui est le cirque de Reims. Et en fait, le cirque de Reims comme l'hippodrome de Douai font partie des 7 derniers cirques qui existent en pierre, en dur, en France. Il y a aussi Paris, Châlons-en-Champagne, Elbeuf, Amiens, Maubeuge, je crois, et j'en veux plus en doute, mais j'en veux plus. Après ça, le lieu il est récupéré par une association qui s'appelle au début Maison de la Culture sans mur, et en fait c'est l'ancêtre du tandem tel qu'on connaît aujourd'hui. Le lien entre les deux salles elle se fait en 2011. Et donc ça, c'est le premier lieu où le tandem en tant que structure est installé. Donc au début, c'est l'association de l'hippodrome de Douai. En 92, sa deuxième salle nationale. Et puis ensuite, notre directeur actuel, Gilles Berlangois, reprend aussi la direction du théâtre d'Arras. Et donc c'est à ce moment-là que les deux lieux fonctionnent ensemble. Voilà, petit point historique pour ici. Et donc on va aller maintenant vers les portes de Fort Boyard. Vous allez voir, c'est assez marrant comme endroit. Et par là, on va du coup vers les loges, et quand on remonte, on va vers la salle Malraux. On va observer après le plateau d'un autre endroit, enfin, on va le voir d'un autre endroit que celui où on était tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va visiter quelques loges. Des endroits aussi où vous pouvez accrocher voilà, des cintres, des costumes, des choses comme ça. Donc comme je le disais, ou Julia le disait, je ne sais plus, la dernière fois à la visite du théâtre d'Arras, les loges, c'est des endroits où vous pouvez rester pendant plusieurs heures avant le spectacle, parce que vous répétez, parce que machin, ou vous êtes parfois plusieurs jours, même si vous dormez ailleurs, parce que vous avez plusieurs représentations d'un même spectacle. Donc voilà, ça c'est un espace où on est amené parfois à vivre un petit peu, dans le sens où on y passe toute sa journée, où on travaille, c'est là qu'on se réfugie quand on a fini de travailler, quand on a fini sa répétition. Est-ce que vous avez des questions sur ces espaces-là, sur les loges ?
Bah, juste moi, vous permettez aux artistes de répéter avant de la présentation ou pas du tout ? Ou bien c'est juste pour la diffusion du spectacle et puis c'est tout ?
Oui, si, bien sûr. Ça fait même partie de nos missions au tandem que d'accompagner les créateurs, en fait, et donc de leur proposer aussi des temps de résidence. Tout à l'heure, je pense que tu es arrivée, Luna, on parlait du spectacle de Sarah Espour. Et bien, Sarah Espour, par exemple, elle est venue faire une résidence au Théâtre d'Arras pour son spectacle. Donc oui, c'est même plus que... Enfin, on leur offre la possibilité, mais c'est même plus que ça. C'est même encouragé dans la mesure de nos capacités en termes de planning, etc. Alors, on va remonter par ici, du coup.
En fait, on a deux lieux. C'est pour ça qu'on s'appelle Tandem, d'ailleurs. Et donc, l'idée, hein, c'est vraiment globalement de travailler sur la dualité. Et si vous regardez, donc à la fois, on a deux paires d'yeux, mais si vous regardez aussi le logo du Tandem, par exemple, vous remarquerez que le A et le D, chacun, c'est un 2A enchevêtré et 2D enchevêtré pour montrer la dualité. Et aussi, parce que pourquoi le A et le D ?
Arras doué.
Voilà.
Ah. Je pensais pas.
Mais
quoi, t'apprends des trucs. C'est ça. Donc vous continuez à monter et là vous allez voir, cet espace-là est un petit peu marrant. Je l'aime bien parce que à la fois ça a l'air d'être un espace d'accueil et à la fois on est un peu entre plein de choses. Donc voilà, c'est l'espace, à la fois l'espace où vous allez occuper le catering, donc la cafetière, la lumière. Parfois on met des choses à manger ici, vous avez d'autres loges. Et puis vous avez à nouveau des accès un peu partout. Si vous allez par là au fond, vous retournez au niveau des quatre portes qu'on avait tout à l'heure. Si vous remontez par là, et on va faire ça, vous allez vers la salle d'impro, un autre endroit. Mais voilà, c'est un espace un peu à la croisée de plein de choses. Et je pense que c'est assez facile de s'y perdre, donc c'est pour ça qu'il y a des, toujours ces petits panneaux en bois partout, avec aussi les mots qui sont indiqués en anglais, parce que comme vous savez, on a des artistes internationaux. C'est important pour nous d'avoir ce genre de signalétique.
Cette émission vous a été proposée en partenariat avec l'équipe du Tandem, la radio PFM et les complices.